Thomas Hardy. Le maire de Casterbridge. Chapitre 32. Deux ponts franchissaient la rivière au bas de la ville. Le premier, fait de briques salies par le temps, était situé au bout de la rue haute, au point où cette artère détachait une branche divergente qui menait aux ruelles basses de Durnover, et traçait ainsi dans la ville une démarcation entre les quartiers de prospérité et d'indigence. Le second pont, construit en pierre et un peu à l'écart de la grande route, s'élevait au milieu des prés tout en restant inclus dans les limites de la ville. L'aspect de ces ponts était éloquent. Leur moindre saillie était émoussée, en partie par l'usure du temps, mais plus encore par le contact de générations d'oisifs dont les talons et les orteils avaient pendant des années sans nombre buté nerveusement contre le parapet où s'appuyait leur propriétaire pour méditer sur l'état des affaires. Sur les faces planes des briques et des pierres friables, ce double mouvement avait fini par creuser des trous. Sur le bord libre du parapet, la maçonnerie se renforçait de crampons de fer fixés entre les joints pour empêcher les hommes exaspérés d'arracher, comme ils l'avaient fait souvent, les pierres des bordures et de les jeter à l'eau en manière d'agressif défi aux magistrats. C'est vers ces deux ponts que convergeaient toutes les déchéances de la ville, toutes les victimes d'affaires, d'amour, de boissons ou de crimes. La raison qui poussait ces malheureux à adopter pour leur méditation ces ponts, de préférence à toute autre palissade, porte ou barrière quelconque, n'apparaît d'ailleurs pas bien clairement. Il y avait une différence marquée dans la qualité des personnages qui hantaient le pont de briques et de ceux qui allaient plus loin s'adosser au pont de pierre. Les hommes de la plus basse condition préféraient le premier, plus proche de la ville, dont ils ne redoutaient pas le regard curieux. Même en leur temps de prospérité, ces gens-là n'avaient jamais beaucoup compté, et s'ils se sentaient démoralisés, ils n'éprouvaient de leur ruine aucune honte particulière. Ils gardaient les mains enfoncées dans les poches et portaient une ceinture de cuir autour de la taille. Leurs souliers attendaient toujours un coup de brosse qui ne venait jamais. Ils crachaient au lieu de soupirer sur leur malheur et se plaignaient de la mauvaise fortune au lieu de dire qu'ils sentaient un couteau enfoncé dans leur cœur. Job, à ces moments de détresse, était souvent venu là, comme la mère Coxom, Christophe Coney et le pauvre Abel Whittle. Les misérables qui s'attardaient sur le pont de pierre étaient d'une espèce plus relevée. Ils comprenaient faillis et hypochondriaques, individus à qui leur faute ou la malchance avait valu d'être sans situation, comme on dit, ratés des classes dirigeantes, gentlemen râpés, qui cherchaient à tuer le temps trop long entre le déjeuner et le dîner, ou les heures plus lourdes entre le dîner et le souper. Leurs yeux regardaient presque toujours par-dessus le parapet l'eau qui coulait dans la rivière. L'homme que l'on voyait contempler ainsi fixement le courant avait bien des chances d'être de ceux que la vie, pour une raison ou l'autre, traitait sans aménité. Tandis que sur le pont de la ville, le déchu peu soucieux de ceux qui le voyaient s'adossait au parapet pour voir venir les passants, celui du pont de pierre ne regardait jamais la route, ne tournait jamais la tête au bruit des pas, mais avec une susceptibilité excessive, penchait les yeux sur le courant dès qu'approchait un étranger, comme s'il eût contemplé quelque étrange poisson, bien que le dernier représentant de la gent à nageoire eût été pêché depuis bien des années. C'est ainsi qu'ils rêvassaient. Si leur affliction était due à quelque acte d'injustice, ils se voyaient rois. À la pauvreté, ils se souhaitaient millionnaires. À une lourde faute, ils rêvaient d'être des saints et des anges. L'amoureux bafoué se contemplait en Adonis courtisé et de vaste renommée. D'aucuns, à force de garder leurs yeux fixés sur le courant, avaient d'aventure laissé leur pauvre carcasse le suivre. On les retrouvait le lendemain, un peu plus bas, dans un trou de la rivière, pour toujours soustraits à leur peine. Comme d'autres malheureux y étaient venus avant lui, Enchard venait à ce pont, en suivant le sentier qui longeait la rivière et doublait le côté glacé des remparts de la ville. Il s'y trouvait par un venteux après-midi d'hiver, lorsque l'horloge de Durnover sonna 5 heures. Les rafales de vent apportaient, par-dessus la plaine humide, les notes de la cloche à ses oreilles, lorsqu'un homme qui passait derrière son dos l'appela par son nom. Enchard se retourna légèrement et reconnut Job, son ancien régisseur. Job avait trouvé un nouvel emploi, et c'est chez lui que, malgré la haine qu'il lui inspirait, Enchard était allé se loger, parce que Job était, à Casterbridge, le seul être dont l'ancien maire méprisa jusqu'à l'indifférence les regards et l'opinion. Henchard répondit d'un imperceptible signe de tête, et Job s'arrêta. « Ils sont entrés dans leur nouveau domicile aujourd'hui, » fit-il. « Ah !» répondit distraitement Henchard. « Où cela ?»« Dans votre ancienne maison à vous. »«
Dans ma maison ?» s'écria Henchard, avec un sursaut. « Dans ma maison, entre toutes celles de la ville !»«
Oh, personne n'y aurait habité, et vous ne pouviez plus la garder. Cela ne vous fait pas de mal que ce soit cet homme-là. »
C'était exact. Il ne pouvait en éprouver aucun mal. Farfrae, qui avait déjà racheté les cours et les magasins, était entré en possession de la maison à cause de sa contiguïté. Et pourtant, l'idée que l'Écossais dût habiter cette vaste demeure, tandis que lui, l'ancien propriétaire, logeait dans une chaumière, excitait singulièrement la fureur d'Henchard.
« Vous avez entendu parler, poursuivit Job, de l'homme qui a acheté à la vente les plus beaux de vos meubles. Il agissait au nom de Farfrae. On ne les a pas même enlevés de la maison dont il avait déjà signé la cession.
Les meubles aussi! Cet homme-là finira par acheter mon corps et mon âme.
Cela pourrait bien se faire si vous consentiez à les vendre. » Et ce trait planté dans le cœur d'un maître jadis impérieux, Job poursuivit sa route. Henchard restait si bien plongé dans la contemplation du courant rapide que le pont finit par lui paraître reculé sous ses yeux. La plaine basse s'assombrissait, et le gris du ciel se faisait plus profond. Le paysage ne formait plus qu'une page brouillée d'encre lorsqu'un second voyageur s'approcha du pont de pierre. Il conduisait un cabriolet et se dirigeait aussi vers la ville. Au milieu du dos d'âne formé par l'arche du pont, il arrêta sa voiture. « Monsieur Henchard !» lança la voix de Farfrae. Henchard tourna la tête. Voyant qu'il ne s'était pas trompé, Farfrae ordonna à l'homme qui l'accompagnait de rentrer avec le cabriolet. Il en descendit lui-même pour s'approcher de son ancien ami. « On m'a dit que vous songiez à émigrer, monsieur Henchard, » fit-il. « Est-ce vrai ? J'ai une raison sérieuse pour vous le demander. » Henchard resta quelque temps sans répondre, puis « Oui, c'est vrai. Je m'en vais où vous vouliez aller voici quelques années, lorsque je vous en ai empêché, en vous décidant de rester ici. Ce sont les retours de la vie, n'est-ce pas ? Vous souvenez-vous que nous nous tenions comme aujourd'hui sur l'allée de la Chaux quand je vous ai persuadé de ne pas partir ? Vous ne posiez dire rien au monde dans ce temps-là. Et moi, j'étais le maître dans la maison de la rue du Blé. Et maintenant me voici sans un sou vaillant, alors que vous, vous commandez dans cette maison-là. »
« Oui, oui, c'est vrai. Ainsi va le monde, » fit doucement Farfrae.
« Vrai, ha ha !» s'écria Henchard, avec un accès de gaieté douloureuse. « En haut, puis en bas. J'y suis habitué. Chacun son tour, après tout. »
« Maintenant, si vous voulez m'accorder un instant, écoutez-moi, » proposa Farfrae. « Écoutez-moi comme je vous ai écouté un jour. Ne partez pas, restez ici. »
« Mais je ne puis faire autrement, mon ami, » fit Henchard, d'un ton dédaigneux. « Le peu d'argent que je possède encore me permettra de vivre pendant quelques semaines, mais pas plus. Je ne me suis pas senti jusqu'ici disposé à retourner à mon ancienne besogne de journalier, mais je ne puis rester sans rien faire et je trouverai de meilleures conditions à l'étranger. »
« Voilà ce que je voulais vous proposer, si vous consentez à m'écouter. » « Revenez habiter dans votre vieille maison, dont nous pourrions sans peine distraire quelques pièces. Je suis sûre que ma femme n'y verra pas d'inconvénient. Venez jusqu'à ce que vous ayez trouvé un nouveau débouché. »
Henchard tressaillit. L'idée si ingénument lancée par Farfrae, la perspective de vivre sous le même toit que Lucetta, lui paraissait sans doute trop choquante pour être acceptée avec calme.
« Non, non, » répondit-il sèchement, « nous nous disputerions. »
Vous auriez un logis à votre usage et personne n'irait vous y chercher. »
insista Farfrae. Ce serait bien plus sain pour vous que d'habiter au bord de la rivière comme vous le faites. Mais Henchard persista dans son refus. Vous ne savez pas ce que vous me proposez, fit-il. Je ne puis faire moins cependant que de vous remercier. Ils rentrèrent en ville côte à côte, comme le jour où Henchard avait convaincu le jeune homme de rester chez lui. Voulez-vous venir souper avec nous ? Demanda Farfrae, en atteignant le centre de la ville, où les routes divergeaient.
« Non, non.
À propos, j'avais failli oublier, j'ai acheté pas mal de vos meubles.
C'est ce que j'ai appris.
Ce n'est pas que j'en ai grand besoin pour moi-même, voyez-vous, mais je voudrais que vous repreniez tout ce qui vous ferait plaisir, tous les objets qu'un souvenir peut vous rendre précieux, ou qui répondraient particulièrement à vos besoins. Emportez-les chez vous, cela ne me privera nullement. » « Nous n'avons que faire de tant de choses et j'aurai bien des occasions d'en acheter de nouvelles. » Comment ? Vous voulez me les donner pour rien ? Mais vous les avez payés aux créanciers ? C'est vrai, mais tout cela peut avoir plus de valeur pour vous que pour moi. » Enchard ressentit une certaine émotion. « J'ai quelquefois l'impression de vous avoir mal jugé. » fit-il, et son accent traduisait le trouble que l'obscurité cachait sur son visage. Il serra la main de Farfrae et s'éloigna à grands pas, comme s'il avait eu peur de se livrer davantage. Farfrae le vit prendre la ruelle de la Borne aux Bœufs et disparaître du côté du moulin du prieuré. Cependant, dans une pièce mansardée, grande à peine comme la chambre du prophète, Elizabeth Jane s'activait à côté de la malle qui renfermait la parure de soie de ses jours glorieux, à la confection de filets d'hiver entre les heures consacrées aux livres qu'elle pouvait se procurer. Son logis se trouvant presque en face de l'ancienne résidence de son père, aujourd'hui propriété de Farfrae, elle voyait Donald et Lucetta en franchir la porte avec tout l'enthousiasme exalté de leur situation nouvelle. Elle faisait son possible pour éviter de regarder de ce côté-là, mais il eût été bien contraire à la nature humaine de tenir les yeux au loin quand la porte battait. La jeune fille menait une existence paisible. Lorsqu'elle apprit un jour qu'Enchard avait pris froid et se trouvait retenu à la chambre, à la suite sans doute de ses longues stations au milieu des prés par les temps humides. Elle courut tout droit à sa maison, dont elle était bien décidée cette fois à ne pas se laisser interdire l'accès. Elle grimpa l'escalier de la chaumière et trouva Enchard assis sur son lit et enveloppé dans un vieux manteau. Cette intrusion parut l'irriter tout d'abord, et il repoussa la jeune fille. « Va, va, je ne veux pas te voir. »« Mais, mon père, je ne veux pas te voir, » répétait-il. La glace était pourtant rompue, et Elisabeth resta. Elle rangea la pièce, donna des instructions en bas, et laissa en partant son beau-père réconcilié avec l'idée de ses visites. L'effet de ses soins, ou sa seule présence, amenèrent chez le malade une guérison rapide. Il se trouva bientôt en état de sortir, et se mit à considérer les choses sous un angle nouveau. Il ne pensait plus à émigrer et songeait plus souvent à Elisabeth. C'est l'inaction qui, plus que toute autre circonstance, assombrissait sa vie. Un jour, jugeant Farfrae avec plus d'équité qu'il ne l'avait fait depuis longtemps, et sentant que nul travail honnête ne pouvait comporter de honte, il alla stoïquement trouver l'Écossais dans sa cour et lui demanda de le prendre comme botteleur de foin. Il fut aussitôt agréé, et les termes de son engagement furent discutés par un employé. Farfrae comprenait que mieux valait pour lui ne pas se trouver en présence de l'ex-marchand de grains, en dehors des cas d'absolue nécessité. Sincèrement désireux de lui venir en aide, il avait trop appris à connaître ses sautes d'humeur pour ne pas juger une certaine réserve nécessaire dans leur relation. C'est la même raison qui le conduisait à faire toujours donner ses ordres à Enchard par une tierce personne, pour l'envoyer botteler dans telle ou telle ferme du voisinage. Pendant un certain temps, ces sages précautions portèrent leurs fruits. On avait coutume, avant de l'emporter, de botteler sur place le foin acheté dans les fermes des campagnes, et Enchard restait parfois toute une semaine occupé au loin. Ce travail achevé, il se sentit à demi dompté et put reprendre à côté des autres journaliers sa tâche quotidienne dans les bâtiments de Farfrae. C'est ainsi que le riche négociant de naguère, l'ex-maire, l'homme tout chargé d'honneur, se retrouvait en qualité de simple travailleur manuel dans les granges et greniers qu'il possédait encore si peu de temps auparavant. « J'ai déjà travaillé à la journée, n'est-ce pas ? » disait-il, avec un accent de défi. « Pourquoi ne recommencerai-je pas aujourd'hui ?» Mais il ne ressemblait plus guère au botteleur de sa jeunesse. Il portait dans ce temps-là des vêtements propres et pratiques, aux teintes claires et riantes, des jambières d'un jaune souci, du velours frais comme de la filasse neuve, un foulard fleuri comme un jardin. Il gardait maintenant de ses splendeurs passées un vieil habit de drap bleu, un chapeau de soie râpé et une cravate de satin, autrefois noire, mais aujourd'hui fripée et blanchie. Ainsi vêtu, il allait à droite et à gauche, non sans activité encore, car il n'avait guère plus de 40 ans, et voyait, avec des autres ouvriers, Donald Farfrae entrer dans la cour ou en sortir, par la porte ouverte qui menait au jardin, à la vaste maison et vers Lucetta. Au début de l'hiver, on chuchota dans la ville que M. Farfrae, déjà membre du conseil, devrait être proposé pour la mairie dans un an ou deux. Oui, elle s'est montrée avisée entre toutes les femmes, grommelait Enchard, qui venait d'apprendre la nouvelle en se rendant à la grange de Farfrae. En liant ses bottes, il ruminait cette pensée, qui prêtait une vie singulière au tableau qu'il s'était autrefois tracé de l'ascension de Donald Farfrae, son rival triomphant, qui passait sur son corps avec des souliers ferrés. Un garçon de son âge, devenir maire, ah vraiment, murmurait-il, avec un sourire en coin. C'est l'argent de sa femme qui le porte. Ah, quelle belle affaire! Me voilà moi, l'ancien patron, travaillant comme ouvrier chez l'homme qui est devenu le maître de ma maison, de mes meubles, et de celle aussi que l'on pourrait bien appeler ma femme. 100 fois par jour, il ruminait ses pensées. Jamais au temps de leur connaissance, il n'avait aussi désespérément désiré Lucetta pour femme qu'il ne regrettait maintenant sa perte. Il n'était pourtant mu par aucun désir mercenaire de fortune, malgré tout ce que la fortune avait ajouté de séduction à l'aspect de la jeune femme. Elle lui avait donné cet air d'indépendance impertinente qui séduit les hommes de la trempe d'Enchard. Elle lui avait valu des serviteurs, une maison et de belles robes, toute une parure qui donnait à Lucetta un air de nouveauté piquante aux yeux de l'homme qu'il avait connu dans ses jours de gêne. Ses réflexions replongeaient Enchard dans une sombre taciturnité, et toute allusion à l'accession possible de Farfrae à la mairie renouvelait sa haine furieuse contre l'Écossais. Il subissait aussi une transformation morale qui se traduisait par ses paroles, lancées de temps en temps avec un air de défi. Plus qu'une quinzaine, plus qu'une douzaine de jours, et ainsi de suite, avec un nombre de jours chaque fois décroissant. « Pourquoi donc que vous dites plus qu'une douzaine de jours ?» lui demanda une fois Salomon Longways, qui pesait de l'avoine dans un grenier près de lui. « Parce que dans 12 jours, je serai libéré de mon serment. »« Quel serment ?»« Le serment de ne pas boire de liqueur forte. Il y aura 20 ans, dans 12 jours, que j'ai juré cela, et alors je veux m'en donner, plaise à Dieu. » Un dimanche, Elizabeth Jane entendit sous sa fenêtre une conversation où revenait le nom d'Enchard. Elle se demandait de quoi il s'agissait, lorsqu'un troisième passant élucida la question précise qui la tourmentait. « Michel Enchard vient de se remettre à la boisson après n'avoir rien pris depuis 20 ans !» Elizabeth Jane bondit, s'habilla et sortit.